Chapitre 11. Peu importe ce que vous avez imaginé, peu importe ce que vous avez lu, la quantité de briefings que vous avez pu écouter ou le nombre d'anciens membres de gouvernement que vous avez recrutés, rien ne vous prépare véritablement à ces premières semaines à la Maison-Blanche. Tout est nouveau, inhabituel et lourd de sens. La grande majorité de vos recrues au poste de haut responsable d'administration, y compris les secrétaires de département, ne seront pas auditionnés et approuvés par le Sénat avant des semaines, voire des mois. Partout dans la Maison-Blanche, on voit des employés se procurer les pièces d'identité obligatoires, demander où ils peuvent se garer, apprendre à utiliser les téléphones, chercher où sont les toilettes, et trimballer des cartons dans l'étroit dédale de l'aile ouest ou dans les salles plus spacieuses du bâtiment Eisenhower, chacun tâchant de ne pas avoir l'air trop submergé. C'est comme le jour où l'on emménage dans une résidence universitaire, si ce n'est qu'une bonne proportion des gens concernés sont d'un certain âge, en costume, et à vos côtés, chargés de gouverner la nation la plus puissante du monde. Je n'avais pas à m'inquiéter de l'emménagement, mais mes journées étaient une tornade. Ram, qui se souvenait combien le fait de trébucher au départ avait entravé Bill Clinton tout au long de ses deux premières années d'exercice, avait l'intention de mettre à profit la lune de miel post-électorale pour accomplir des choses. « Croyez-moi, m'a-t-il dit, la présidence, c'est comme une voiture neuve. Elle commence à se déprécier à la minute où on sort du parking. » Pour créer d'emblée une dynamique, il avait demandé à notre équipe de transition d'identifier les promesses de campagne que je pourrais mettre à exécution d'un trait de plume. J'ai signé un décret-loi interdisant la torture et entamé un processus censé durer un an pour fermer le centre de détention militaire de Guantanamo Bay à Cuba. Nous avons institué un code de déontologie parmi les plus drastiques de l'histoire de la Maison-Blanche, dont des restrictions contraignantes à l'égard des lobbyistes. Deux semaines plus tard, nous avons finalisé un accord avec les chefs de file du Congrès afin que 4 millions d'enfants bénéficient du Children's Health Insurance Program, ou CHIP, destiné aux enfants dont la famille disposait de revenus trop faibles pour souscrire une assurance maladie privée, mais trop élevés pour bénéficier de Medicaid, le régime d'assurance publique pour les plus démunis. Et peu après, nous avons levé le moratoire du président Bush sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, financées à l'échelon fédéral. J'étais en poste depuis 9 jours lorsque j'ai promulgué ma première loi, la loi Lilly Ledbetter sur l'égalité salariale. Cette loi doit son nom à une modeste habitante de l'Alabama qui, alors qu'elle avait déjà effectué une longue carrière au sein de la société Goodyear Tire and Rubber, s'était rendu compte qu'elle avait été systématiquement moins bien payée que ses homologues masculins. C'était un cas de discrimination incontestable et l'affaire n'aurait pas dû faire un pli. Seulement, en 2007, la Cour suprême avait débouté la plaignante. D'après le juge Samuel Alito, au titre du chapitre 7 de la loi sur les droits civiques, Lilly Ledbetter aurait dû déposer une requête 180 jours maximum après que la discrimination avait eu lieu. Autrement dit, 6 mois après avoir reçu sa première paie, et donc de nombreuses années avant d'avoir constaté la disparité des salaires. Pendant plus d'un an, les républicains au Sénat avaient bloqué toute mesure corrective, le président Bush ayant promis de mettre son veto si jamais ladite mesure passait. À présent, grâce au travail législatif rapide de nos majorités démocrates enhardies, le projet de loi reposait sur un petit bureau officiel du Salon Est. Lilly et moi étions devenus amis pendant la campagne. Je connaissais sa famille, j'étais informé de ses déboires. Elle se tenait à côté de moi ce jour-là quand j'ai apposé ma signature à la loi, utilisant un stylo différent pour chacune des lettres de mon nom. Les stylos serviraient de souvenir pour Lilly et les parrains du projet de loi. Une belle tradition, même si on aurait dit que ma signature avait été faite par un enfant de 10 ans. Je ne pensais pas seulement à Lilly, mais aussi à ma mère et à toutes, ainsi qu'à toutes les autres femmes actives dans le pays qui n'avaient jamais eu droit aux promotions ou avaient perçu moins que ce qui leur était dû. La loi que je promulguais n'annulerait pas des siècles de discrimination, mais c'était déjà quelque chose, un pas en avant. C'est pour ça que je me suis présenté, me suis-je dit. Voilà ce que permet la présidence. Nous allions faire passer d'autres initiatives comparables au cours de ces premiers mois, certaines suscitant un intérêt modéré de la part des médias, d'autres remarquées uniquement par ceux qui étaient directement concernés. En temps normal, cela aurait été suffisant, une série de petites victoires en attendant que nos projets législatifs plus ambitieux, la santé, la réforme de l'immigration et le changement climatique, soient examinés par les deux chambres. Mais nous n'étions pas en temps normal. Pour le public et les médias, pour moi et mon équipe, une seule question importait vraiment. Qu'allions-nous faire pour éviter l'effondrement de l'économie ? La situation paraissait certes désastreuse avant l'élection, mais c'est seulement à la mi-décembre, à la faveur d'une réunion à Chicago avec ma nouvelle équipe économique, à peine plus d'un mois avant mon investiture, que j'avais commencé à mesurer l'ampleur de ce qui nous arrivait. Christy Romer, dont l'attitude enjouée et le style sage évoquaient une maman de sitcom des années 1950, a commencé son exposé en citant une formule prononcée par Axelrod lors d'une réunion antérieure. « Monsieur le président élu, a-t-elle dit, voici venu l'instant où vous allez vous exclamer « Oh putain !» Les ricanements se sont vite évanouis quand Christy nous a montré une série de diagrammes. Au cours de l'année écoulée, plus de la moitié des 25 plus grandes institutions financières des États-Unis étaient en défaut de paiement, ou avaient dû fusionner, ou étaient en restructuration pour éviter le dépôt de bilan. Ce qui avait débuté comme une crise à Wall Street avait à présent contaminé l'économie au sens large. La bourse avait perdu 40% de sa valeur. Des dossiers de saisie immobilière avaient été déposés concernant 2,3 millions de foyers. La richesse des ménages avait chuté de 16%, ce qui, comme Tim le ferait remarquer par la suite, était un pourcentage 5 fois supérieur à celui de la chute qui s'était produite à la suite de l'effondrement boursier de 1929. Tout cela dans le contexte d'une économie qui souffrait déjà de niveaux de pauvreté structurellement élevés, d'un déclin de la part des actifs dans la population en âge de travailler, de gains de productivité en baisse et d'une stagnation des salaires médians. Et nous n'avions pas encore touché le fond. Les gens, se sentant plus pauvres, avaient cessé de dépenser. L'accroissement des pertes avait conduit les banques à suspendre les prêts, mettant en péril davantage d'entreprises et d'emplois. Un certain nombre de gros détaillants avaient déjà mis la clé sous la porte. General Motors et Chrysler prenaient la même direction. Les informations faisaient état au quotidien de licenciements massifs dans des sociétés réputées inébranlables, comme Boeing et Pfizer. D'après Christy, tous les voyants semblaient annoncer la plus importante récession depuis les années 1930, avec un chômage estimé à 533 000 demandeurs d'emploi uniquement pour le mois de novembre, qui allait certainement empirer. Empirer comment, ai-je demandé? On n'est pas sûr, a répondu Larry, mais ça se comptera sans doute en millions. Il a expliqué que le chômage était un indicateur différé. Autrement dit, les licenciements durant les récessions n'apparaissaient pas immédiatement dans leur totalité et se poursuivaient bien après la reprise économique. En outre, les économies redémarraient généralement bien plus lentement lorsque les récessions avaient été déclenchées par des crises financières, comparées à celles causées par les fluctuations des cycles économiques. En l'absence d'une intervention prompte et énergique du gouvernement fédéral, avait calculé Larry, la probabilité de connaître une deuxième grande dépression était à peu près de 1 sur 3. « Bon Dieu !» a murmuré Joe Biden. J'ai regardé par la fenêtre de la salle de réunion du centre-ville. De gros flocons de neige tourbillonnaient en silence dans le ciel gris. Des images de campements de tentes et de gens faisant la queue pour la soupe populaire me sont venues à l'esprit. « Bien, ai-je dit en me tournant vers l'équipe. Vu qu'il est trop tard pour qu'on demande un recomptage des votes, que peut-on faire pour réduire cette probabilité ?» Nous avons passé les 3 heures qui ont suivi à esquisser une stratégie. La mission première consistait à inverser le cycle de la contraction de la demande. Dans une récession ordinaire, on aurait pu envisager une politique monétaire. En baissant les taux d'intérêt, la Réserve fédérale pouvait contribuer à réduire de manière significative le prix d'achat de tous les biens, tant des maisons que des voitures ou de l'électroménager. Mais si le président de la Fed, Ben Bernanke, était prêt à tester toute une batterie de stratégies non orthodoxes pour apaiser la panique financière, a expliqué Tim, la Fed avait brûlé pratiquement toutes ses cartouches au fil de l'année passée. Les taux d'intérêt étaient déjà proches de zéro, et ni les entreprises ni les consommateurs, déjà largement dans le rouge, ne semblaient enclins à s'endetter davantage. Notre discussion a par conséquent porté sur la relance budgétaire, ou, en termes plus prosaïques, comment faire en sorte que l'État dépense plus d'argent. Je n'étais pas diplômé en économie, mais je connaissais l'approche de John Maynard Keynes, un des géants de l'économie moderne, théoricien des causes de la Grande Dépression. Le constat premier de Keynes était simple. Du point de vue d'une famille ou d'une entreprise, il était prudent de se serrer la ceinture en période de grave récession. Le problème était que l'épargne pouvait avoir un effet d'étouffement. Quand tout le monde se serrait la ceinture en même temps, la situation économique ne pouvait pas s'améliorer. La réponse de Keynes à ce dilemme était tout aussi simple. Il fallait que l'État intervienne comme le bailleur en dernier recours. L'idée étant d'injecter de l'argent dans l'économie jusqu'à ce que les rouages se remettent en marche, jusqu'à ce que les familles soient de nouveau suffisamment en confiance pour changer leur ancienne voiture contre une neuve, et que les sociétés innovantes jugent la demande suffisante pour recommencer à fabriquer de nouveaux produits. Une fois l'économie relancée, l'État pouvait alors fermer le robinet et récupérer l'argent injecté via les recettes fiscales générées par la croissance. C'est en grande partie le principe au fondement du New Deal de Franklin Roosevelt, qui prit forme après son entrée en fonction en 1933, au plus fort de la Grande Dépression. Qu'il s'agisse des jeunes hommes employés par le Civilian Conservation Corps, le corps civil pour la protection de l'environnement, à la création de sentiers dans les parcs nationaux, des agriculteurs payés pour leur surplus de lait, ou des troupes de théâtre donnant des représentations dans le cadre de la Work Projects Administration, les programmes du New Deal aidaient les Américains sans emploi à toucher des paies dont ils avaient désespérément besoin, et les entreprises à se maintenir à flot grâce aux commandes de l'État en acier ou en bois, le tout contribuant à soutenir l'entreprise privée et à stabiliser l'économie vacillante. Si ambitieux que fut le New Deal en son temps, les dépenses se révélèrent trop modestes pour contrecarrer pleinement la Grande Dépression, surtout après 1936, année d'élection, quand Roosevelt succomba aux pressions et fit marche arrière sur ce que l'élite des leaders d'opinion considérait comme de l'extrême prodigalité de la part de l'État. Cette crise profonde ne serait vaincue une fois pour toutes qu'avec l'impulsion de la Seconde Guerre mondiale, quand toute la nation se mobiliserait pour construire, selon le mot de Roosevelt, un arsenal de la démocratie. Mais le New Deal avait évité que la situation ne dégénère, et la théorie keynésienne fut largement acceptée par les économistes, y compris parmi les conservateurs. Même si les économistes d'obédience républicaine préfèrent traditionnellement la relance par réduction des impôts plutôt que par déficit public. Il fallait donc un plan de relance. Pour obtenir l'effet escompté, de quelle ampleur devait-il être? Avant l'élection, nous avions proposé ce que nous considérions alors comme un programme ambitieux de 175 milliards de dollars. Immédiatement après l'élection, en examinant les données relatives à la situation qui s'était encore détériorée, nous l'avions porté à 500 milliards. L'équipe préconisait à présent le déblocage de sommes encore plus importantes. Christie a parlé de 1000 milliards de dollars, ce qui a eu pour effet de faire tout sauter Ram comme un personnage de dessin animé recrachant un aliment dégoûtant. Putain, pas question ! A maugréé Ram. Compte tenu de la colère de l'opinion publique à propos des centaines de milliards de dollars déjà dépensés pour le sauvetage des banques, a-t-il dit, le déblocage d'une somme de l'ordre de 1000 milliards ne serait jamais accepté par les démocrates. Alors les républicains n'en parlons pas. Je me suis tourné vers Joe, qui a confirmé d'un hochement de tête. Combien peut-on faire passer ? Ai-je demandé. Peut-être 700 milliards, 800 tout au plus, a dit Ram, et c'est un maximum. Se posait également la question de la manière dont les dollars du plan de relance seraient utilisés. D'après Keynes, peu importait où l'État injectait l'argent, du moment que cela générait de l'activité économique. Mais comme les niveaux de dépenses dont nous parlions excluraient probablement le financement d'autres priorités jusque dans un avenir relativement lointain, j'ai incité l'équipe à réfléchir à des projets à la fois prestigieux et à forte rentabilité. Des versions modernes du réseau autoroutier fédéral et de la Tennessee Valley Authority, qui non seulement boosterait immédiatement l'économie, mais pourrait transformer à plus long terme le paysage économique américain. Pourquoi pas un réseau électrique intelligent, déployé dans tout le pays, qui acheminerait l'électricité de manière plus sûre et plus efficace, ou un système de contrôle du trafic aérien hautement intégré, qui améliorerait la sécurité et réduirait les coûts en carburant et en émissions carbone. Les réactions autour de la table n'ont pas été très encourageantes. Nous avons déjà commencé à demander à des agences fédérales d'identifier des projets à fort impact, a dit Larry. Mais je vais devoir être honnête, monsieur le président. Ces types de projets sont extrêmement compliqués. Il faut du temps pour les développer, et malheureusement, le temps presse. Le plus important était de faire en sorte que de l'argent frais tombe dans la poche des gens le plus vite possible. Et cet objectif serait plus rapidement atteint en fournissant des coupons d'alimentation et en prolongeant l'assurance chômage, mesure assortie de réduction d'impôts pour la classe moyenne, et d'aide aux États pour éviter qu'ils ne soient obligés de licencier des enseignants, des pompiers et des agents de police. Les études avaient montré que les dépenses en infrastructures seraient les plus efficaces, mais, a suggéré Larry, même là nous devions nous concentrer sur des objectifs plus prosaïques, comme les réparations de la voirie et des canalisations d'égouts vétustes, des projets que les collectivités locales pourraient lancer sans attendre, afin de mettre les gens au travail immédiatement. Ça va être dur de stimuler les gens avec des coupons d'alimentation et la réfection des routes, a dit Axe. Pas super sexy. Une dépression non plus, ce n'est pas sexy, a répondu Tim sur un ton acerbe. Tim était celui d'entre nous qui avait déjà passé une année à s'arracher les cheveux sur les lignes de front de la crise. Je ne pouvais décemment pas lui en vouloir s'il refusait de se laisser embarquer dans je ne sais quel projet idéaliste. Sa plus grande inquiétude était que le chômage de masse et les faillites ne fassent qu'affaiblir le système financier, créant ce qu'il décrivait comme une boucle de rétroaction négative. Pendant que Larry piloterait la relance, Tim et son équipe tâcheraient de concocter un plan pour déverrouiller les marchés de crédit et stabiliser le système financier une fois pour toutes. Tim a reconnu qu'il ne savait pas encore exactement si le plan fonctionnerait, ni si les 350 milliards restants du TARP seraient suffisants pour le financer. La liste de ce qu'il y avait à faire ne s'arrêtait pas là. Une équipe talentueuse, dont faisait partie Sean Donovan, anciennement à la tête du département de la protection et de la création de logements à la municipalité de New York, que je choisirai comme secrétaire au logement et au développement urbain, ainsi qu'Austin Goolsbee, mon conseiller économique de longue date et professeur à l'Université de Chicago, que je nommerai au groupe des conseillers économiques, avait déjà commencé à travailler sur un plan pour consolider le marché de l'immobilier et réduire l'afflux des saisies immobilières. Nous avions recruté un génie de la finance, Steve Rattner, et Ron Blum, un ancien banquier d'affaires qui représentait les syndicats dans les restructurations d'entreprises, pour élaborer des stratégies en vue de sauver l'industrie automobile. Et celui qui deviendrait mon directeur du budget, Peter Orszag, s'est vu confier la tâche guère enviable de trouver un moyen de financer la relance à court terme, tout en plaçant le budget sur un chemin plus viable à long terme. Cela à une période où les hauts niveaux de dépenses d'urgence et les recettes fiscales plus basses avaient déjà conduit le déficit fédéral à dépasser les 1000 milliards de dollars pour la première fois dans l'histoire. Afin d'oublier un instant les ennuis de Peter, nous avons clos la réunion autour d'un gâteau pour célébrer son 40e anniversaire. Tandis que tout le monde se dirigeait vers la table pour le regarder souffler ses bougies, Goolsbee, dont le nom de gentleman farmer collait mal avec son allure de photoreporter de comics à la Jimmy Olsen, son humour exubérant et son accent nasillard de Waco au Texas, s'est approché de moi. C'est incontestablement le pire briefing auquel un président nouvellement élu ait eu droit depuis Roosevelt en 1932, a-t-il dit en faisant une tête de petit garçon regardant une blessure particulièrement horrible. Goolsbee, ai-je répondu, ce n'est même pas mon pire briefing de la semaine. Je ne plaisantais qu'à moitié. En dehors des briefings économiques, je passais une bonne partie de cette période de transition dans des salles sans fenêtres, à écouter des exposés confidentiels sur l'Irak, l'Afghanistan et de multiples menaces d'attentats. Et pourtant, je me souviens d'être sorti de cette réunion économique plus dynamisé que découragé. Ma confiance était en partie due à l'adrénaline post-électorale, j'imagine. La conviction pas encore mise à l'épreuve, peut-être illusoire, que j'étais à la hauteur de la tâche qui se présentait. Et puis, j'étais content de l'équipe que j'avais rassemblée. Si les réponses dont nous avions besoin existaient, alors ce groupe les trouverait, me disais-je. Mais surtout, mon attitude tenait au fait que j'étais bien obligé d'observer comment, dans la vie, s'équilibrent les fortunes bonnes et mauvaises. À considérer toutes les bonnes choses qui m'étaient arrivées pendant la campagne, je pouvais à présent difficilement me plaindre d'avoir un mauvais jeu entre les mains. Comme je le rappellerai à mon équipe à maintes reprises au cours des années à venir, le peuple américain n'aurait sans doute pas pris le risque de m'élire si nous n'avions pas été emportés dans ce tourbillon incontrôlable. Notre boulot désormais consistait à mener une bonne politique et à faire ce qui était le mieux pour le pays, même si cela risquait d'être dur au plan politique. C'est tout du moins ce que je leur ai dit. En mon fort intérieur, je savais que, au plan politique, ce ne serait pas seulement dur. Je savais que ce serait brutal. Pendant la période qui avait précédé l'investiture, j'avais lu plusieurs livres sur le premier mandat de Roosevelt et la mise en œuvre du New Deal. Le contraste était instructif, mais pas en notre faveur. Quand Roosevelt avait été élu en 1932, la Grande Dépression faisait des ravages depuis déjà plus de 3 ans. Un quart du pays était au chômage, des millions de personnes se trouvaient sans ressources et les bidonvilles qui parsemaient le paysage américain étaient souvent appelées « Hooverville », ce qui donnait une idée de ce que les gens pensaient du président Herbert Hoover, l'homme dont Roosevelt s'apprêtait à prendre la suite. Les difficultés étaient si considérables, les politiques républicaines si discréditées, que lorsqu'une nouvelle série de retraits bancaires massifs eut lieu au cours de la période de transition entre les deux présidences, qui était à l'époque de 4 mois, Roosevelt mit un point d'honneur à refuser d'accéder à la demande de Hoover qu'il appelait à la rescousse. Il voulait s'assurer que, dans l'esprit des Américains, sa présidence marquerait une rupture nette, exempte des fautes du passé. Et quand, par chance, l'économie montra des signes de reprise 1 mois seulement après son entrée en fonction, sa nouvelle politique ne pouvait avoir déjà fait effet, Franklin Roosevelt se garda bien d'en partager le mérite avec le gouvernement précédent. Nous, en revanche, n'aurions guère le bénéfice d'une telle clarté. Après tout, j'avais déjà pris la décision d'aider le président Bush dans sa réaction nécessaire, bien que farouchement impopulaire, à la crise bancaire. J'avais déjà posé la main sur l'arme du crime, pour ainsi dire. Afin de stabiliser davantage le système financier, je le savais, il allait probablement falloir que je continue sur cette lancée. J'étais déjà obligé de tordre le bras de certains démocrates du Sénat, uniquement pour qu'ils votent le déblocage de 350 milliards de dollars correspondant à la deuxième tranche des fonds du TARP. Alors que les électeurs verraient la situation empirer, ce qui, selon Larry et Christie, était quasiment une certitude, ma popularité, ainsi que celle des démocrates qui désormais contrôlaient le Congrès, ne manquerait pas de dégringoler. Et malgré les bouleversements des mois précédents, malgré les unes atroces de début 2009, personne, ni la population, ni le Congrès, ni les médias, ni même, comme je ne tarderai pas à le constater, les experts, ne se doutaient des proportions dans lesquelles les choses allaient encore empirer. Les données dont disposait le gouvernement annonçaient une récession sévère, mais pas cataclysmique. Les spécialistes les plus fiables avaient prévu que les chiffres du chômage atteindraient au maximum 8 ou 9%, n'envisageant même pas que la barre des 10% serait finalement franchie. Quand, plusieurs semaines après l'élection, 387 économistes, progressistes pour la plupart, avaient envoyé une lettre au Congrès pour réclamer une solide relance keynésienne, ils avaient tablé sur un coût de 300 à 400 milliards de dollars, à peu près la moitié de ce que nous étions sur le point de proposer. Un bon indicateur de l'idée que même les experts les plus alarmistes se faisaient de l'état de l'économie. Ainsi que l'a décrit Axelrod, nous nous apprêtions à demander aux Américains de dépenser près de 1000 milliards de dollars pour des sacs de sable, dans l'attente d'une tornade comme il n'y en a qu'une par génération. Une tornade dont nous étions les seuls à savoir qu'elle arrivait. Et une fois l'argent dépensé, que les sacs de sable aient été efficaces ou non, beaucoup de gens auraient pris le bouillon. Quand les choses vont mal, a commenté Axe, marchant à mes côtés à la sortie de la réunion de décembre, tout le monde se fiche de savoir que ça aurait pu être pire. Tu as raison, ai-je dit. Il faut annoncer aux gens ce à quoi ils doivent s'attendre, a-t-il poursuivi. Mais si on les effraie trop, eux ou les marchés, cela ne fera qu'ajouter à la panique et causera encore plus de dégâts pour l'économie. Là encore, tu as raison, ai-je dit. Axe a secoué la tête d'un air malheureux. Les élections de mi-mandat vont être un enfer, a-t-il repris. Cette fois-ci, je n'ai rien dit, admirant cette capacité touchante qu'il avait parfois d'enfoncer des portes ouvertes. De toute façon, je ne pouvais pas me permettre le luxe de réfléchir à si longue échéance. Il fallait que je me concentre sur un deuxième problème politique, plus immédiat. Il fallait que notre loi de relance soit adoptée au Congrès sans délai. Seulement, au Congrès, ça ne se passait pas très bien.